Bilodeau, le plus solide duo depuis Jack et Meg White.
Je vous rappelle que Meg White, c'est moi. Et Jack White, c'est Véronique. 17h14 à Boulevard 102-1, c'est Gravel dans le retour. Hey, merci aux gens de la Rive-Sud qui nous indiquent, entre autres Doom par les textos, il dit « L'essence vient de faire un méchant bond de 10 sous par en haut pour tomber à 1,64 $. Tenez-vous-le pour dit. Puis pour l'essentiel des routes, Audrey, ça se passe comment?
Pas bien. Si vous êtes en ce moment, je vous dirais, sur Dufresne-Montmorency Est, entre Henri Bourassa et l'avenue d'Estimonville, la voie de droite qui est partiellement entravée, panne de ce côté-là, le remorquage, pardon, qui est en cours. Fin de l'accès de la 40 Est vers Duplessis Sud, c'est partiellement entravé, un véhicule lourd en panne. Duplessis Sud entre la 40 et Versant Nord, la voie de droite qui est bloquée aussi due à ce véhicule lourd-là en panne. Je regarde la carte capitale direction Est. Difficile entre Henri IV et Laurentienne en ce moment. Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Des problèmes sur Robert Bourassa, direction nord aussi, entre Charest et la capitale. Charest-Est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Henri IV Sud, Charest au pont, difficile. Duplessis Sud, c'est de chemin Sainte-Foy au pont Pierre-Laporte que ça se passe. Dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravo, dans les deux directions, c'est toujours pas terminé. La 20, direction ouest, sur la rive sud, c'est entre la route du président Kennedy et Taniata. Quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021 texto.
Il est vulgarisateur d'actualité, on l'adore, à Boulevard 102-1. Et à la question pendant la pause, c'est où que tu as eu des problèmes dans le trafic en t'en venant? Il a répondu partout. Farnell Morissette, salut.
Salut, comment ça va? Je suis ici, là, c'est déjà fait, on est arrivé.
Ça a pris combien de temps? Tu partais d'où, juste pour le plaisir?
Je partais de Montcalm. Ça m'a pris...
Montcalm, c'est une ville loin,
ouais,
sur la rive.
Oui, exactement, c'est ça. Ouais. C'est pas loin de Trois-Rivières. et me rendre en studio sur le Bourgneuf, ça m'a pris un peu plus qu'une heure.
OK.
Je vous aime bien gros. Je suis content d'être ici.
Je suis content que tu sois là.
Ouais, je suis content que tu n'aies pas fait demi-tour par dépit. Puis la réflexion que tu as lancée sur tes réseaux sociaux aujourd'hui, je trouve ça super intéressant. Puis ça part d'un documentaire que tu as vu qui est gratuit, c'est ça?
Oui, c'est un documentaire gratuit sur Savoir Média. J'ai été invité au lancement, en toute transparence. Marois Risky, qui est la narratrice et qui est une des idéatrices du documentaire, c'est aussi une de mes amies, c'est pour ça que j'ai été invité. Mm-hmm. Mais tu sais, le documentaire m'a beaucoup fait penser à plusieurs choses. Le documentaire s'appelle L'écart silencieux. C'est sur l'écart de la réussite scolaire entre les gars et les filles.
Qui
écart
est encore présent.
Qui s'accentue année après année. Et c'est un écart qu'on peut constater dès le très jeune âge, première, deuxième année, mais qui s'agrandit année après année.
Si vous êtes des habitués de Gravel dans le retour, vous aurez deviné que l'écart intellectuel place les gars vers le bas et les filles vers le haut.
Ben, t'sais, pis c'est intéressant parce que, justement, t'sais, je me demandais... Une des choses qui sort du documentaire, c'est quel genre d'exemple on donne aux petits gars. Aux petits gars de tous les âges, mais je veux dire, aux écoles primaires, c'est presque seulement des enseignantes. Puis je remets aucunement ça en question. Mais ça commence là, et après ça, ça continue jusqu'à Cégep Université, où l'intellectualisme n'est pas présenté comme quelque chose de masculin.
Farnell, est-ce que c'est quelque chose qui est typique au Québec, où en général, c'est répandu ailleurs aussi?
C'est un problème qu'on voit ailleurs. On le voit dans les pays scandinaves. On aime souvent se comparer aux pays scandinaves. On le voit des pays scandinaves en Europe, aux États-Unis. On le voit un peu moins en Ontario qu'au Québec. Alors, il y a quand même des choses qui se font là-dessus. Mais c'est pas une situation qui est unique au Québec. Selon moi, le documentaire fait essentiellement deux conclusions. Allez le voir, c'est sur Savoir Média, c'est gratuit, je vous le recommande, je ne suis pas payé pour dire ça, rien. Là. C'est 50 minutes, vous pouvez l'écouter en mangeant. Et ça tire essentiellement deux conclusions. Le premier, c'est que la lecture, c'est super important. Puis le deuxième, c'est qu'il faut avoir des exemples masculins qui encouragent l'affection intellectuelle chez les gars.
J'ai trouvé ta réflexion à voix haute super comique parce que tu dis, moi le premier... J'ai des diplômes, j'en ai plusieurs. Mais juste de dire ça, on dirait que je suis mal à l'aise de mettre ça de l'avant, comme si j'étais en train, je sais pas moi, d'essayer de me tirer un rang. On a vraiment ça dans nos gènes, le malaise à montrer qu'on a fait des études ou qu'on a...
Ouais, puis c'était ça ma réflexion. T'sais, je me demandais, j'ai pas loin de 200 000 abonnés sur les médias sociaux. Je sais, là, il y a beaucoup de jeunes gars qui m'écoutent. Et moi, je veux pas en parler parce que, justement, on a un tabou là-dessus. On a un tabou sur la réussite financière aussi. On a un tabou sur plein de choses. Mais genre, si je disais que j'ai couru un marathon en fin de semaine, tout le monde dirait « Ah, bravo! »
high five.
Exactement. Il n'y aurait aucun malaise à ça.
Tu partagerais ton parcours.
Exactement.
Sur les réseaux sociaux,
puis pourtant, je veux dire, on se prépare pour un marathon. C'est énormément de travail. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça non plus. Mais il y a quelque chose de particulier avec la réussite académique, avec l'intellectualisme qui semble avoir. Il y a un tabou. Il y a un tabou là-dessus. Je pense que c'est un tabou qui est particulièrement prononcé chez les gars. Et je me demande encore, puis je veux dire, j'encourage tout le monde à avoir la réflexion parce que être un modèle pour les jeunes gars, c'est une responsabilité qui est collective, ça nous appartient tous.
C'est vrai que chez la femme, on n'a pas tant ce malaise-là à partager les études qu'on a fait. Je ne sais pas si c'est un peu notre passé.
Mais j'ai l'impression que c'est ça. Il a fallu que nous, on fasse des gains pour accéder à l'éducation, alors que chez les gars, fallait que, mettons, que dans une famille, tu aies celui qui va aller faire des hautes études. Mais toi, tu vulgarises bien. Puis j'ai l'impression que pendant des années et des années, le gars, l'homme qui avait des études, avait un ton un peu plus radio-canadien, un peu moins grand public. Puis tu avais l'impression que ça s'adressait à son univers, à lui, plutôt qu'à monsieur et madame tout le monde. Puis dans ce cas-ci, des plus jeunes. C'est plus facile.
Il
n'y
avait peut-être pas une volonté d'être un modèle, mais juste une volonté de se hisser dans les classes sociales, peut-être.
Oui, peut-être. Je veux dire, une des particularités sociales québécoises, ça, je l'ai constaté en vivant ailleurs aussi, c'est qu'on est très peu hiérarchisé en tant que société.
Contrairement à la France,
aux États-Unis, en Angleterre. Au Québec, le caissier au dépanneur parle au PDG d'une multinationale d'égal à égal, puis c'est une super belle chose. Mm. Mais ça, je pense que justement, ça rentre là-dedans, c'est qu'on veut pas trop se dissocier les uns les autres. Et en tout cas, il y a plein de gens qui nous écoutent, puis je nous encourage tous à penser à comment est-ce qu'on peut être des meilleurs modèles masculins de façon à encourager nos gars à continuer les études. Puis ça enlève absolument rien aux femmes. Les femmes ont besoin de place dans les études. Et de toutes les autres petites façons qu'on peut le faire, genre, une des choses super importantes, est-ce que vos jeunes gars vous voient lire? Est-ce que vos jeunes gars vous voient avoir des discussions sensées, posées, respectueuses avec des gens?
Vous intéressez à autre chose aussi.
Puis là, Droni, je veux pas faire la morale à personne, puis je veux pas faire de beef, mais on parle d'exemple, justement. T'sais, j'étais pas dans le trafic tantôt, puis j'entendais la façon que tu parlais des citoyens qui sont contraires au bruit à l'Académie Saint-Louis. Puis je suis totalement d'accord avec toi, OK? Moi aussi, là, je suis pas confortable avec la façon que ça a été abordé, là. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je comprends, là, puis encore une fois, je veux pas me pogner de beef. Sous l'émotion, on fait plein de choses, mais on a tous une responsabilité d'être un modèle envers les gars. Il y a combien de petits gars qui t'ont entendu comparer ces gens-là à des vers de terre?
Mais c'était une image théâtrale. Je faisais du théâtre.
Mais je veux dire, est-ce à des gens qui sont pas capables de te répondre, t'as 10 fois, 100 fois le micro qu'ils sont capables d'avoir? T'sais, en tout cas, je veux juste qu'on ait tous cette réflexion-là parce que le modèle qu'on donne aux gars, il tire pas de nulle part. Là. C'est pas vrai qu'ils vont juste voir Andrew Tate. Ils nous regardent tous. Puis je pense qu'on a tous une responsabilité. Puis ça suit ma propre réflexion. Puis c'est ça que j'ai lancé. Moi, je me sentais pas confortable à parler de mon intellectualisme, de ma diplomation. Je me sens pas encore totalement confortable avec ça, mais je pense que c'est important de réaliser.
C'est drôle parce que j'ai été confronté par mes gars une couple de fois par rapport à des choses que j'ai dit en ondes. Des fois, quand je m'emporte, parce que veux pas, dans le média qu'on a, dans le média qu'on fait, si on sort pas de nos gonds une fois de temps en temps, tu sais, on fait du spectacle dans une certaine mesure.
Absolument,
éduque, mais il y a un côté spectacle aussi.
Il y a une place pour la passion, puis il y a une place pour c'est un engagement citoyen que tu fais toi aussi. Là. Je veux aucunement négationner ça.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant, justement, c'est de parler de ça avec mes gars, puis justement de dire, ça arrive. Ça arrive qu'on s'emporte, ça arrive qu'on a de la chaleur, mais quand on a ça, faut être sûr d'être capable d'avoir les arguments puis le raisonnement derrière. Puis c'est sûr que papa fait du spectacle aussi, puis il faut tout prendre ça avec un grain de sel. Je pense pas me fâcher de façon malicieuse en voulant devenir un mauvais citoyen. Puis à un moment donné, j'ai changé de job justement parce que j'avais cette réflexion-là de dire, là, je suis un père, j'ai des enfants qui grandissent, qui vont aller à l'école, qui vont être confrontés par les enseignants, qui vont être confrontés peut-être par leurs camarades de classe. Jusqu'où je me fâche, jusqu'où je suis un clown, puis je prends mon rôle de père au sérieux par rapport à tout ça, mais c'est une réflexion que j'ai souvent, puis ça va peut-être être encore le cas, parce qu'à l'heure où j'ai fait mes niaiseries, mes enfants souvent sont dans le char, ils disent « Ouais, papa, t'étais fâché. Ouais, papa s'amusait, mais il a peut-être mis deux roues dans gravel aussi. Ça arrive, ça fait partie de l'être humain, puis je pense que c'est... Tu sais, la réussite académique, c'est une chose, mais il y a un point où on s'est amélioré, les gars, c'est que maintenant, on se donne peut-être la permission de dire « Hey, ça se peut que tu aies des problèmes de santé mentale.
Oui, absolument.
Ça se peut qu'à un moment donné, tu aies manqué de patience. » Tu sais, avant, on se permettait pas ça. Mm. moi, ça me montre qu'on évolue dans une certaine mesure, puis peut-être que la prochaine étape, c'est d'évoluer au niveau intellectuel, puis d'arrêter de voir le fait que tu as ramassé 2-3 diplômes comme quelque chose que tu veux cacher en arrière d'un personnage ou de autre chose, tu sais. Mm.
J'ai envie de te poser la question, Farnell, parce que tu l'as souligné toi-même, justement. Est-ce que tu fais partie du problème, entre guillemets, dans le sens que tu es quelqu'un, justement, qui a une bonne éducation derrière la cravate, qui a fait de bonnes études, qui a ses diplômes, etc., etc.
Mais qui ne met pas de l'avant.
Ben, on te présente comme un vulgarisateur d'actualité. J'ai pas la liste de tes diplômes.
Non, c'est ça. Sincèrement, je vous la donnerai pas de toute façon. Je me sentirais pas confortable avec te présenter avec l'alphabet après mon nom.
Veux-tu que je la lise en mode théâtre?
Non, c'est pas.
Mais tu sais, ce qu'on valorise sur les réseaux sociaux, c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que souvent pour les jeunes, c'est un peu le gars qui va faire la moue pour être sexy, là, qui va prendre
porter
des
marques,
photos,
qui va réussir dans le sport, qui justement va faire ses marathons ou peu importe. C'est rare qu'on va mettre de l'avant. Mettons un Laurent Duvernay-Tardy, je pense, fait partie de ceux qui aident. Ouais. Tu peux être le gars cool, qui réussit, qui est capable de jouer dans la NFL, mais qui est capable d'aider la business familiale, d'être bon à l'école, d'être capable d'être curieux en général, mais on les met pas beaucoup de l'avant, ces modèles-là, comme société.
Puis c'est comme si on voulait les mettre de l'avant, genre, on parle de Laurent Duvernay-Tardif, je pense que c'est un excellent exemple, docteur Duvernay-Tardif. Pourquoi on le met de l'avant, lui? Parce qu'il a eu du succès au football.
Pas parce qu'il réussit,
pas parce qu'il est médecin. C'est docteur Duvernay-Tardif.
Alors que Denis, un de ses enfants qui a été sauvé par un chirurgien cardiaque, c'est ce poster-là qu'il faudrait dans les chambres des enfants.
Ben oui!
C'est des chercheurs qu'on voit, qu'on entend une fois de temps en temps, puis qui sont pas mis de l'avant. Ça prend une société d'État pour faire des reportages une fois de temps en temps. Tu vas faire « Hey, c'est donc bien intéressant comme parcours, mais ça va juste s'arrêter là. »
Puis ça enlève pas la place du poster sportif non plus, là, mais c'est juste si on reconnaît qu'il y a énormément de travail, d'efforts qui rentrent à devenir un star du sport et on devrait valoriser ça, ben il y en a tout autant qui rentrent à devenir médecin ou
chercheur
ou peu importe. Là.
Est-ce que c'est dans l'ADN du gars d'idolâtrer davantage la performance sportive que la performance académique, ou c'est l'héritage qu'on leur laisse en tant que société, d'après toi?
Je pense que c'est dans l'ADN du gars d'idolâtrer ce qu'il voit les plus vieux, particulièrement les hommes plus vieux autour de lui, valorisés. Ultimement, ça revient à ça. C'est super niaiseux à dire, là, mais la meilleure façon de prédire, ça va être quoi? Le parcours académique d'un gars, c'est regarder le parcours académique de son père. C'est aussi simple
c'est
que ça.
C'est un héritage de
société. Je veux dire, moi, je vais me passer pour un gros nerd puis je m'assume, mais moi, quand j'étais jeune, oui, j'avais des posters d'athlètes, mais j'avais aussi des posters d'astronautes dans ma chambre. Parce que c'était ça qui était valorisé. Puis ça commence, là.
Ça me fait réfléchir, puis en même temps, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais mes gars trippent sur le sport. Puis quand je veux parler de travail puis de réussite académique, bien souvent, je vais passer par le sport pour dire qu'il n'y a rien qui se fait sans effort. Même les choses que tu aimes, si tu veux réussir comme tel joueur de hockey, si tu veux réussir comme tel joueur de soccer, bien, il faut que tu fasses des efforts. Puis les efforts, c'est dans le sport. Mais à un moment donné, le sport, tu as besoin de l'académique aussi pour continuer dans le sport. Fait qu'il va falloir que tu prennes les efforts que tu fais pour quelque chose que tu aimes puis que tu les transposes dans quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile. Sais-tu d'utiliser des exemples de sport pour faire avancer l'académique ou c'est juste qu'il faut peut-être trouver une façon alternative de montrer l'académique aux enfants pour rendre ça plus visuel pour les petits gars, plus coloré peut-être?
Je pense qu'un des dangers qu'il faut éviter, c'est qu'il ne faut pas mettre le sport en opposition au succès académique, à l'intellectualisme. Puis je pense que ça, en particulier, quelque chose de spécial qu'on fait au Québec, qu'on ne fait pas ailleurs. Tu sais, j'ai vécu ailleurs dans le monde, puis je peux le constater. Notre sport de prédilection, le hockey, on est la seule place au monde où le sport de prédilection, quand on commence à devenir, quand on a 16, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça passe plus
par
la scolarité.
Mais oui, t'as tout à fait raison.
Partout ailleurs dans
toujours
le monde...
Toujours un malaise avec ça, d'ailleurs.
C'est ça. Partout ailleurs dans le monde, le sport existe pour développer les universités, le parcours universitaire des athlètes avant qu'ils rentrent éventuellement.
On le voit dans les films.
Ben oui, exactement.
On le voit dans les films que c'est souvent ça la prémisse du film Kétaine, le capitaine de l'équipe sportive a des mauvaises notes puis là, la fille va l'aider pour qu'il soit capable de continuer à jouer. Ouais. Là,
je te dirais que le parallèle, on l'a vu dans les entrevues. Regardez des entrevues d'après-match avec n'importe quel sport versus des entrevues d'après-match avec le hockey, puis ça a changé un peu. Ouais. Tu le voyais dans le vocabulaire. Tu le voyais dans la nuance des réponses aux questions. Tu disais, OK, crime. Tu vois qu'il y a un parcours différent qui a été fait dans l'apprentissage suivait le moment où on pratiquait le sport.
Juste, dites-vous, à la base, tous les joueurs de la NFL ont un bac.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire ça pour tous les joueurs québécois de la NHL? Je pense pas.
Non.
Et quel message qu'on envoie? Encore une fois, je ne mets pas un contre l'autre. Les deux devraient aller ensemble. Un autre excellent exemple, on est tous d'accord pour dire les meilleurs joueurs de n'importe quel sport au monde, ce n'est pas juste les meilleurs athlètes, c'est ceux qui ont pris le temps d'étudier leur sport, de le comprendre, qui ont lu, qui ont analysé et qui ont pris du temps avec leur coach. Et puis, je pense qu'en plus, on devrait peut-être aussi regarder un peu plus les coachs aussi. Parce que c'est bien beau être le capitaine de l'équipe, mais c'est qui dirige pour de vrai? C'est le coach. Puis le coach, c'est un intellectuel.
Puis je trouve qu'on met tellement de pression à nos jeunes de choisir rapidement leur parcours professionnel. En les incitant à rester plus longtemps à l'école ou en allant chercher plus de diplômes, à travers tout ça, ils vont se trouver des passions. Ils vont avoir le goût d'apprendre plus, de se développer, d'aller plus loin, d'aller chercher des compléments. Puis je pense que justement, de lier le sport au scolaire, c'est ça que ça va amener.
Ouais.
Au lieu de prendre un raccourci à 17 ans, tu n'auras pas le choix, tu vas continuer à étudier puis tu vas vouloir quand même partir de là avec quelque chose qui va pouvoir te servir pour la suite. Là.
Je vous lis un texto. Le problème avec la valorisation du modèle masculin, c'est qu'il a tellement été dominant dans l'histoire et qu'il y a eu dans les 20-30 dernières années, et avec raison, la promotion de la prise de la place des femmes, que comme vous dites, on se sent peut-être mal de le faire. Regardez, Farnell s'excuse depuis le début de sa chronique. Il devrait faire sa chronique et poser ses questions sans s'excuser. On voit que le malaise est encore présent. Ouais. Puis c'est, je le lis parce que je trouve que c'est une analyse avec laquelle on est mal à l'aise, comme si il y avait toujours une confrontation de sexe là-dedans, là, quand c'est pas le cas. Là.
Non, parce que pour moi, j'imagine, c'est sûr qu'il va y avoir des commentaires du genre « Ah, ben moi, je suis pas allé à l'école, mais tu sais, je suis intellectuel d'autre façon, puis je reconnais pleinement ça aussi. »
Oui, il y a différentes formes d'intelligence.
Exactement, puis je veux dire, je pense que ça, c'est un autre tabou à briser. C'est pas parce que t'as des diplômes que t'es intelligent, puis c'est pas parce que t'es intelligent que tu vas aller chercher des diplômes.
C'est vrai.
Avoir des diplômes universitaires, c'est surtout une question, un, faut le dire, d'opportunité sociale et économique, et deux, d'efforts soutenus à longue haleine.
Ouais.
N'importe qui a infini d'argent et qui a infini d'efforts et d'énergie à mettre, va éventuellement recevoir tous les diplômes qu'il veut. C'est pas garant d'intelligence, c'est garant de décision sociale, de façon qu'on va investir en nous-mêmes pour se développer et c'est accessible à tout le monde.
Peux-tu y avoir une question de classe sociale aussi? Pendant de nombreuses décennies, puis là je vais parler du Québec, là, ceux qui avaient accès à l'éducation, c'est ceux qui venaient d'un mode de vie un peu privilégié. Là, ça s'est démocratisé avec le temps, mais est-ce que justement de dire que tu es allé à l'école, c'est l'équivalent de dire, ben moi je suis mieux nanti que toi, ou je suis dans une meilleure classe sociale que toi, puis ça rentre dans le malaise?
Probablement, probablement. Je veux dire, je pense que les réflexes culturels de même durent plusieurs générations. Mon père était de la première cohorte, ou essentiellement la première cohorte d'ingénieurs francophones au Québec. C'était le genre de choses qui n'étaient pas accessibles avant. Puis ouais, je pense que c'est une question de classe aussi. Mais regardons la réalité sociale dans laquelle on vit aujourd'hui. Je comprends qu'il y a encore des gens qui en arrachent beaucoup, pour qui, malheureusement, ouais, c'est pas possible à l'université. Mais on vit probablement dans une des sociétés au monde où c'est le plus accessible à plus de gens.
Je me doutais qu'un texto comme ça rentrerait, puis je suis assez d'accord. D'avance, l'école n'est pas faite pour attirer les gars. On associe
souvent
diplômé à incompétence manuelle et physique. C'est pas évident d'être motivé à rester quand tu côtoies des gars qui te ressemblent pas à l'école quand ça avance. Ça, effectivement, j'ai l'impression qu'il faudrait apprendre à moduler tout ça pour que chacun trouve sa place, puis peut-être le goût d'y rester un peu plus.
Ouais, ben on revient, je pense, aux questions culturelles, selon moi. T'sais, oui, l'idée que ah, ben, c'est bien beau, il est bardé de diplômes, mais il est capable de tenir un marteau. il n'est pas capable de changer ses tires. Genre, on l'entend, ces choses-là. Je l'entends moi-même.
Je présente Denis, il n'est pas capable de faire ça.
J'ai pas de diplôme non plus, effectivement.
mais t'sais, moi je dirais à l'inverse, genre, est-ce qu'on re-questionnerait la féminité d'une fille qui n'est pas capable de se mettre poupoune, mais qui a plein de diplômes?
Ouais.
T'as raison.
Jamais.
Oh, mon Dieu, ouais.
Jamais.
On les met beaucoup moins en opposition.
Hey, Farnell, peut-être rappeler le nom du documentaire que les gens peuvent aller voir là, gratos. Là,
L'écart silencieux, c'est sur Savoir Média, c'est sur le site web. Je pense qu'à partir du 11 septembre, ça va aussi être disponible à télé, mais vous faites le voir, vous faites l'écouter là.
Farnell Morissette, merci beaucoup.
Merci.
Pour la réflexion puis les échanges, toujours intéressant.
Vraiment. Je pense que ça va provoquer certaines discussions ce soir.
Oui,
je le souhaite. Je le souhaite.
Ben, tu sais, pour les gens qui trippent sur le sport, Ken Dryden est décédé en fin de semaine. Ken Dryden, en même temps qu'il était gardien de but pour le Canadien, terminait ses études en droit. Dans le temps, dans l'avion, chaque joueur du Canadien avait droit à deux bières entre les matchs. Bon, c'était le bon vieux temps, vous allez me dire. Dryden donnait ses bières à ses joueurs préférés qui avaient joué, selon lui, le meilleur match parce qu'il était dans ses livres puis il étudiait pour avoir ses diplômes. Ça lui a permis d'avoir une deuxième carrière après celle du hockey. Il a probablement écrit le meilleur livre jamais écrit sur le hockey, le livre The Game, qui est sorti dans le milieu des années 80, qui est encore disponible. Et après ça, ben, il a fait partie du gouvernement libéral de Paul Martin pendant plusieurs années. Il a même survécu au gouvernement parce que le gouvernement a changé de couleur, puis lui, il a gardé sa circonscription. C'en est un, ça, qui a brillé sur tous les tableaux, bien avant les programmes sport-études et ainsi de suite. Ça peut partir un bon sujet de conversation. On doit s'arrêter, nous autres, il est 17h33. On revient dans quelques instants à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.